connecté avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bon début de semaine, appelez-nous, exprimez-vous, bienvenue si vous nous rejoignez, l'antenne vous appartient. Ce matin, nous lançons le débat sur le scandale des carburants toxiques distribués en Afrique. Vous en avez certainement entendu parler, en tout cas RFI vous en parle depuis quelques jours. Des carburants qui peuvent avoir une teneur en soufre jusqu'à 1000 fois plus élevée qu'en Europe. Voilà ce qui ressort d'une enquête menée par l'ONG Public Eye. Cette ONG suisse pointe du doigt des négociants qui, pour augmenter leurs profits, n'hésitent pas à mélanger l'essence et le diesel à des produits toxiques. Alors le procédé est évidemment condamnable, mais pas illégal. Aussi surprenant que cela puisse paraître, eh bien, effectivement, certains États africains autorisent la vente de produits toxiques. En moyenne, le niveau de soufre accepté sur le continent africain est de 200 fois supérieur, 200 fois plus élevé que la limite européenne. Au Mali, par exemple, le maximum autorisé par la loi est de 1000 fois la norme européenne. Alors, que vous inspire ce scandale? Comment stopper ce fléau dont les conséquences sanitaires et environnementales peuvent s'avérer dramatiques? Nous allons évidemment en parler. On a envie de vous entendre sur ce sujet. 33 9 680 693 70, 09 693 693 70, si vous nous appelez de France, et vous continuez évidemment à réagir sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de l'émission. Mais d'abord, comme tous les matins, vos questions à la rédaction, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. On va commencer avec une question sur la Birmanie. Sonny, vous nous appelez du Cameroun. Bonjour Sonny.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de RFI un peu sur l'actualité.
Vous êtes à Yaoundé exactement, on vous écoute.
Oui, tout à fait. Après sa visite en Birmanie et sa rencontre avec Aung San Suu Kyi, le président Barack Obama a déclaré qu'il était prêt à lever les sanctions qui pesaient contre la Birmanie. De quelles sanctions s'agit-il? Et y a-t-il d'autres sanctions qui pèsent sur la Birmanie?
C'est vrai que mercredi dernier, Barack Obama a reçu à la Maison-Blanche Aung San Suu Kyi et il en a profité effectivement pour annoncer la levée prochaine des sanctions visant la Birmanie. Et autant le dire tout de suite, cette annonce est loin de faire l'unanimité. Bonjour Stéphane Lagarde.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service international d'RFI. Il faut déjà rappeler à nos auditeurs que ces sanctions américaines sont en vigueur depuis maintenant quasiment 20 ans.
Oui, redire en tout cas qu'après 1990, il faut rappeler le début, 1990, Aung San Suu Kyi, donc, et la LND sont partis, gagnent les élections, et là, la junte militaire prend le pouvoir, donc confisque cette élection. En 1997, il y a la décision de sanctions, effectivement, alors dont les sanctions américaines, et puis petit à petit, en 2011 notamment, le pays va vers la démocratie, on lève progressivement ces sanctions. En 2013, l'Union européenne lève totalement ces sanctions, et puis les États-Unis déjà font un geste en mai dernier en levant des sanctions qui visent les secteurs des mines et du bois, la forêt notamment. Mais il y a toujours ces sanctions américaines qui perdurent. Et là, le 14 septembre, effectivement, Obama annonce cette fois la levée définitive de toutes les sanctions américaines. Ce n'est qu'une annonce, mais c'est important pour la Birmanie.
Et parmi ces sanctions, il y a encore cette fameuse liste noire sur laquelle figure le nom de plus de 100 personnes.
Oui, il y a du monde, 100 personnes, effectivement. Des noms qui appartiennent à la junte militaire, donc à des familles, des grandes familles de l'ancien régime. Enfin, en tout cas, tiennent encore les règnes du pouvoir, mais ce sont des militaires. Ce sont des secteurs opaques, en plus. Les entreprises américaines n'ont pas le droit de signer des contrats avec ces 100 noms et avec les entreprises qui sont dirigées par ces personnes. Elles n'ont pas droit non plus, elles doivent déclarer en tout cas aux autorités américaines si elles investissent plus de 5 millions de dollars. Donc c'est très contraignant. Mmh. Et puis il y a des secteurs qui sont particulièrement visés, notamment les pierres précieuses, le jade, le rubis. C'est des secteurs très opaques où l'armée birmane est très impliquée. Et donc là, pour l'instant, c'est impossible pour une entreprise américaine, évidemment, d'importer du jade et du rubis de Birmanie.
Donc si je comprends bien, la levée prochaine de ces sanctions va permettre aux entreprises américaines de faire davantage d'affaires, d'autant que ces entreprises américaines, elles sont quand même handicapées par rapport aux entreprises européennes. L'Union européenne, vous le disiez tout à l'heure, a levé toutes les sanctions contre la Birmanie, à l'exception, il me semble, de l'embargo sur les armes.
Oui, les armes, oui, toujours.
Voilà, effectivement. Donc les Américains aujourd'hui, finalement, sont handicapés, pénalisés.
C'est effectivement l'une des premières raisons. C'est Chevron, c'est Coca-Cola, c'est ces grandes multinationales américaines qui veulent investir davantage en Birmanie, qui ont du mal et qui se disent pénalisée face aux concurrents. Donc ça, c'est le premier argument. Mmh. Ça fait un peu d'ailleurs un peu jaser du côté des ONG, celles qui défendent les droits de l'homme en Birmanie, en disant il reste plein de problèmes, il y a les Rohingyas, les minorités qui ont des problèmes, et vous allez faire un cadeau aux multinationales. Bon, en tout cas, c'est ça, c'est cet argument-là. Il y a un autre argument, effectivement, c'est Aung San Suu Kyi elle-même. Sa stratégie, c'est un peu un cadeau militaire, hein, de lever ses sanctions, puisqu'encore une fois, ces sans-noms font partie de ses familles, donc récolteraient eh bien les profits, parce que Aung San Suu Kyi pense qu'en faisant ce cadeau aux militaires, eh bien elle pourra élargir ses réformes démocratiques. Donc c'est un peu du donnant-donnant. Et puis enfin, dernier argument, c'est quand même très important aussi, c'est une guerre économique qu'il y a en Birmanie, une guerre d'influence. Les États-Unis, vous savez que la Birmanie est très, très influencée par la Chine et par les entreprises chinoises. Évidemment, les États-Unis ne veulent pas perdre ce marché. Donc il y a vraiment aussi une guerre stratégique en Birmanie aujourd'hui.
En tout cas, ce qui est important de relever, c'est effectivement la réaction de nombreuses ONG de défense des droits de l'homme qui reprochent à Barack Obama de lever justement ces sanctions, alors que ces sanctions, elles peuvent être encore un moyen de pression sur les militaires qui contrôlent une partie du pays.
Pendant très longtemps, c'était un levier pour la diplomatie américaine, encore aujourd'hui, hein, face aux militaires. Et bien, on leur dit, si vous changez pas la constitution, si vous acceptez pas, pardon, de modifier la constitution comme le veut le peuple birman, eh bien, on maintient ces sanctions, vous perdez de l'argent, vous pouvez pas... Voilà. Donc c'était vraiment un levier. Pour les ONG, Info Birmanie, notamment en France, disent que c'est un cadeau fait aux militaires et que c'est un cadeau qui arrive un petit peu trop tôt. Il y a encore des réformes à faire.
Voilà. Merci beaucoup Stéphane Lagarde d'être venu nous éclairer grâce aux questions de Sony qui nous appelait de Yaoundé, 10h16 à Paris. Vos questions à la rédaction 33 9 693 693 70. Nous accueillons Harim Lipold du service international d'RFI. Bonjour Harim.
Bonjour Juan,
merci,
bonjour à tous.
Merci d'être avec nous ce matin. Harim, on vous a demandé de venir car Karim de Ouagadougou a des questions à vous poser. Karim, bonjour.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la radio du monde.
On vous écoute.
Le Congrès américain vient d'autoriser les proches des victimes du 11 septembre à poursuivre l'Arabie Saoudite. J'aimerais savoir pourquoi le Congrès ne l'a fait que maintenant, 15 ans après, et quel est l'intérêt de cette loi pour les familles.
Une loi qui, effectivement, va donner lieu à un énième bras de fer entre Barack Obama et le Congrès, puisque Barack Obama est contre ce texte. Harim Lipold, cette loi, on peut la résumer en quelques mots. Elle va permettre, Karim le rappelait à l'instant, aux familles des victimes des attentats de New York, de Washington, de poursuivre des États, c'est bien ça, des États devant
Exactement,
les tribunaux américains.
Oui, tout à fait. Alors, pour répondre à la première question de Karim, en fait, pourquoi maintenant? Pourquoi avoir attendu 15 ans? Eh bien, en fait, c'est assez simple, c'est que les familles de victimes se sont mobilisées très rapidement, finalement, après les attentats. Ils sont allés devant le tribunal, ils ont essayé de poursuivre l'Arabie Saoudite sans succès, parce qu'il y a une loi... une loi américaine qui garantit l'immunité des États étrangers, face à d'éventuelles poursuites par la justice américaine. Donc il est possible de poursuivre des individus, mais pour des actes terroristes, mais pas des États, à l'exception des États qui sont sur la liste noire du State Department,
du département
d'État, exactement. C'est-à-dire qui, d'après Washington, soutiennent officiellement le terrorisme. Donc il y a l'Iran, le Soudan et la Syrie. Donc les familles, ils ont été déboutés par les tribunaux et ils se sont retournés, finalement, ils se sont tournés vers les parlementaires. Ils ont fait pression sur le Congrès pour qu'ils changent la législation et pour que désormais effectivement ce soit possible de poursuivre des États, ce qui est selon cette loi qui a été d'abord adoptée par le Sénat et ensuite par la Chambre des représentants, c'était il y a une dizaine de jours, juste à la veille des commémorations du 11 septembre. Donc est désormais possible.
Alors on parle de l'Arabie Saoudite, on rappelle tout de même que 15 des 19 auteurs des attentats du 11 septembre étaient saoudiens et que jusqu'à présent aucune enquête américaine n'a conclu que les autorités saoudiennes avaient soutenu de près ou de loin ces attaques. Que peut faire maintenant Barack Obama après cette loi, l'adoption de cette loi? Est-ce qu'il va la ratifier? Est-ce qu'il va s'y opposer?
Alors, Obama et toute son administration, en fait, a déjà dit qu'il opposera son veto à cette loi. Il l'a dit dès le début, en fait, parce qu'effectivement, il ne veut pas mettre à mal les relations entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Et aussi, il ne veut pas créer un précédent qui fait que désormais d'autres États pourraient emboîter le pas et aussi permettre que les États-Unis soient poursuivis pour des actes qu'ils auraient peut-être ou des soldats auraient commis à l'étranger. Donc pour Obama, il n'est pas question de sanctionner, d'approuver cette loi. Alors il y a quand même c'est très intéressant parce que il y a une possibilité que un veto présidentiel puisse être revoqué par le Congrès. Il faut une majorité de 2/3. Et comme cette loi bénéficie du soutien et des démocrates et des républicains, donc un large soutien bipartisan, eh bien, il n'est pas complètement impossible que le Congrès puisse avoir cette majorité de 2/3 pour revoquer le veto présidentiel. Donc, affaire à suivre, sachant que la candidate à la présidence, Hillary Clinton, est en faveur de cette loi.
Comme Barack Obama, donc. À suivre. Donc,
non, Barack Obama est contre cette loi.
Excusez-moi, voilà. Autant pour moi, contrairement à Barack Obama.
Contrairement à Barack Obama,
exactement. Et c'est important de le préciser, c'est vrai que de nombreux élus démocrates ont adopté ce texte controversé. Merci beaucoup à Arim Lipold. On souhaite évidemment une bonne journée à Karim qui nous appelait de Ouagadougou. 33 9 693 693 70. Nous allons à Boaké où nous appelle Eric. Bonjour Eric.
Bonjour Juan Gomez.
Bienvenue sur notre antenne, vous êtes en Côte d'Ivoire et vous avez, vous, des questions sur le bras de fer entre le gouvernement français et la direction d'Alstom. On vous en parle depuis quelques jours, depuis l'annonce de la fermeture du site historique du groupe ferroviaire à Belfort. Quelles sont vos questions, Eric ?
Tout à fait. Lors de son déplacement en Roumanie, François Hollande annonçait qu'il ferait tout son possible pour éviter la fermeture de l'usine Alstom à Belfort. Et à cet effet, j'aimerais savoir quelle est la marge de manœuvre du gouvernement français sur le dossier Alstom. Ensuite, comment expliquer les difficultés d'Alstom à Belfort quand on sait que les autres filiales du groupe fonctionne parfaitement en France.
Effectivement, il y a 12 usines installées en France et celle qui semble poser problème, c'est celle de Belfort. Francine Quentin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, journaliste au service Écho des RFI. François Hollande qui affirmait effectivement que tout sera fait pour que le site de Belfort soit pérennisé pour plusieurs années. Le Premier ministre Manuel Valls qui déclare lui de son côté qu'il est hors de question que ce site soit fermé. Concrètement, quelle est la marge de manœuvre de l'exécutif ?
Alors, disons-le clairement, elle est assez faible. L'État français dispose de 20% du capital d'Alstom, mais c'est insuffisant pour imposer quoi que ce soit au groupe ferroviaire. Par ailleurs, le gouvernement a exclu de monter davantage au capital, contrairement à Olivier Besancenot, le porte-parole du nouveau parti anticapitaliste, qui suggère, lui, de nationaliser carrément Alstom. Alors, le Premier ministre Manuel Valls l'a bien rappelé, le rôle de l'État, c'est de faire émerger des solutions, mais la prise de décision, c'est la prérogative des entreprises. C'est aux dirigeants d'Alstom de mettre en place un plan industriel de nature à sauver le site de Belfort. Alors la situation idéale, la solution idéale pour le gouvernement, ça serait que la SNCF et la RATP passent commande à Alstom de matériel roulant.
La RATP étant le métro, rappelons-le,
le métro
parisien pour nos auditeurs, et la SNCF, ce sont les trains.
Les chemins de fer nationaux. Ouais. Pour remplir le carnet de commande de l'usine de Belfort. Il y aurait bien les 6 TGV dont la SNCF a besoin pour la ligne Paris-Turin-Milan. Et les 250 trains du RER nouvelle génération pour le syndicat des transports d'Île-de-France. Il y a aussi les voitures futures qui équiperont les nouvelles lignes de métro automatique du Grand Paris. Mais le patron de la SNCF, Guillaume Pépi, comme Philippe Yvin, le président de la Société du Grand Paris, reste vague, car des appels d'offres sont en cours sur certaines de ces opérations. Or, qui dit appel d'offres dit plusieurs compétiteurs, comme par exemple le groupe espagnol CAF, qui est concurrent d'Alstom et qui entend bien que les dés ne soient pas pipés en faveur d'Alstom sur ses appels d'offres. D'autant plus que le groupe espagnol a lui aussi un site de production en France, dans le sud-ouest, et donc génère des emplois lui aussi.
Alors à Belfort, on construit des locomotives depuis 1879. Eric nous demande comment expliquer que ce site soit plus en danger que les autres.
Eh bien c'est pas compliqué. Les sites d'Alstom en France sont au nombre de 12 et ils sont plus ou moins spécialisés. Les uns font du design, les autres font des moteurs, les autres font des rames ou des locomotives. Or, le site de Belfort fabrique les motrices TGV et les locomotives de fret. Or, le fret est actuellement un secteur en difficulté, confronté à une forte concurrence de la route, ce qui explique que le site de Belfort soit le plus touché par les baisses de commandes.
Ouais, et on rappelle que l'intersyndicale d'Alstom appelle tous les salariés des 12 sites de France à faire grève à la fin du mois, le 27 septembre. Et d'ici là, le maire de Belfort appelle la population et les commerçants à faire cause commune avec les salariés en baissant les rideaux de tous les magasins samedi prochain durant une heure. Merci beaucoup. Et on suivra ce dossier évidemment avec vous, Francine Quentin, et le reste du service éco des RFI. Il est 10h25, il nous reste 5 minutes. On va donc accueillir Olivier. Bonjour.
Bonjour Monsieur Rouen et bonjour à tous les auditeurs des RFI.
Vous avez des questions sur la Libye?
Oui, exactement. Alors, les forces du général Haftar se sont emparées des terminaux pétroliers au nord-est de la Libye. Mmh. Alors, pour cela, j'ai des questions. La première, comment expliquer que ces forces reconnues par la communauté internationale n'ont pas pu empêcher les forces du général Haftar de s'emparer de ces terminaux pétroliers? Ouais,
effectivement, et ça suscite, voilà, on l'a vu, l'inquiétude d'une grande partie de la communauté internationale. Kader Abderrahim est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'IRIS, maître de conférence à Sciences Po. On vous doit notamment cet ouvrage, tout juste publié aux éditions Erol, Daesh, histoire, enjeux et pratiques de l'organisation État islamique. C'est grâce aux forces du général Haftar que les autorités rivales au gouvernement d'Union nationale ont donc pris il y a quelques jours le contrôle des principaux terminaux pétroliers. Il faut dire que depuis la chute de Kadhafi, le pétrole est au centre des luttes de pouvoir. Comment expliquer la facilité avec laquelle finalement les hommes du général Haftar ont pu conquérir les terminaux pétroliers?
Je ne sais pas s'il faut parler de facilité, je ne suis pas du tout un spécialiste des questions militaires, mais en tout cas, ce qui apparaît aujourd'hui clairement comme la guerre du pétrole entre les deux gouvernements rivaux de Tobrouk et de Tripoli a été gagnée par l'armée du général Haftar, parce que ses troupes et ses soldats sont bien équipés, sont bien renseignés et qu'ils sont très motivés. Et ça fait quand même une différence considérable par rapport à l'armée régulière de Tripoli, qui semble, elle, divisée, malmenée, mal commandée, mal encadrée, avec un gouvernement qui a beaucoup, beaucoup de mal à affirmer son autorité. Et on peut s'interroger et se poser la question de savoir quel est le rôle, notamment, des pays européens et occidentaux d'une manière générale, puisque notamment, on a appris il y a quelques semaines, au courant de l'été, que la France apportait un soutien militaire au général Haftar, alors que dans le même temps, le général Haftar, qui ne reconnaît pas la légitimité du gouvernement de M. Fayez Sarraj à Tripoli, la France reconnaît le gouvernement d'Union nationale à Tripoli. Et ça peut devenir, sur le plan diplomatique, très embarrassant pour nous, même si on peut comprendre que dans cet imbroglio libyen, la France cherche à ménager la chèvre et le chou, mais il faudra bien clarifier à un moment ou un autre notre position.
Effectivement, la position française. Alors, les autorités de Tripoli, celles qui sont donc reconnues par la communauté internationale, vont essayer, j'imagine, de reprendre le contrôle de ces terminaux. D'ailleurs, depuis hier, on assiste à une contre-offensive des forces pro-gouvernementales pour reprendre ce qu'on appelle le croissant pétrolier libyen. Malgré tout, est-ce qu'aujourd'hui, le pétrole libyen peut-il être exporté, vendu à l'étranger, sachant que ce sont ceux qui ne sont pas reconnus par la communauté internationale qui le contrôlent?
Oui, ça, c'était tout à fait possible, ça se fait au marché noir, d'ailleurs c'est ce que faisait Daesh en Libye, c'est ce que fait Daesh en Irak ou en Syrie. Ça se vend au marché noir, ça a été finalement reconnu, même si les entreprises sur le marché international qui prennent le risque d'acheter du pétrole comme ça au marché noir courent un très grand risque. Mais enfin, il faut quand même souligner que la production de pétrole libyen depuis le début de la guerre déclenchée par la France et la Grande-Bretagne en 2011 a été divisée par 4. Donc les possibilités de renflouer les caisses de l'État libyen sont devenus extrêmement limités.
Oui.
Et je crains que cette guerre du pétrole ne débouche malheureusement sur une troisième guerre civile en Libye.
Troisième guerre civile entre qui et qui? Entre les forces pro-gouvernementales reconnues par la communauté internationale et les forces d'Haftar?
Absolument, absolument. Il est clair aujourd'hui que le général Haftar affiche des ambitions personnelles. On l'a vu la semaine dernière, faire une tournée en Afrique, aller se présenter. Ouais. Bon, il y a une histoire ancienne qui avait été mise en place, des relations très très profondes
entre un certain nombre d'États africains et la Libye.
Et on a reçu d'ailleurs des questions sur ces relations particulières entre le général Haftar et d'autres chefs d'État africains. On aura l'occasion d'en reparler dans le courant de la semaine. Kader Abderrahim, merci d'avoir été avec nous, à suivre le journal. Et on revient dans 10 minutes pour débattre de l'actualité.